Les mystères du Palais-Royal, troisième partie, chapitre 31. Disparu. Ils étaient, mon Dieu, bien simples, les nouveaux projets de Madame Clodion, et décelaient au plus haut point, chez cette excellente femme, l'esprit du commerce et de la spéculation. Expliquons-nous. Pendant le cours de sa longue vie, Madame Clodion avait fait à peu près tous les métiers. Celui d'accoucheuse était venu le dernier et avait été le plus lucratif. Voici pourquoi. D'une part, la discrétion de Madame Clodion était inviolable et bien connue. De l'autre, sa conscience se montrait accommodante, et nos lecteurs ont pu se convaincre par eux-mêmes que la sage-femme avait peu de scrupules. Arrêter brusquement et par les moyens les plus criminels une grossesse accusatrice, aider à cacher les suites d'une faute ou même en faire disparaître le résultat, tout cela ne semblait à Madame Clodion que péché véniel. Aussi, sa clientèle était-elle nombreuse et, pécuniairement parlant, la meilleure de toutes. La raison en est bien simple. Aucune marchandise en ce monde ne se vend aussi cher qu'une conscience, si tarée qu'elle soit. Rien ne s'achète plus cher qu'une complicité. D'ailleurs, le vice qui se cache a pour habitude d'être généreux, et le crime ne marchande pas quand il veut rester secret et par conséquent impuni. Madame Clodion savait cela à merveille et elle en faisait son profit. De là provenaient les économies assez rondelettes que nous avons mentionnées plus haut. Ces économies, Madame Clodion rêvait de les arrondir encore. Elle savait à merveille qu'il y avait à Toulouse une demi-douzaine de vieux libertins millionnaires. On devine maintenant, sans que nous ayons besoin d'entrer dans de plus amples détails, quelle était la spéculation sur laquelle se basaient les beaux projets d'avenir de Madame Clodion. Si l'âme de la pauvre Henriette pouvait voir depuis l'autre monde quelle destinée on réservait à son enfant, certes, l'unique faute de sa vie était suffisamment expiée. 4 ans se passèrent. La petite Hébé grandissait à vue d'œil. Sa beauté et sa grâce enfantine se développaient de jour en jour et promettaient de devenir vraiment miraculeuse dans quelques années. Madame Clodion, que ses occupations peu sédentaires forçaient à être souvent hors de chez elle, laissait la petite fille dans la maison de sa nourrice, où le grand air et la liberté la développaient rapidement. 2 ou 3 fois par semaine, la coucheuse allait voir Hébé. Elle s'extasiait de tout son cœur devant les perfections naissantes de l'enfant. Elle se pâmait d'enthousiasme en face de ses longs cheveux noirs, épais et veloutés, en face de cette bouche mignonne, de cette peau satinée, de ces grands yeux dont le regard deviendrait bientôt irrésistible. Et elle se frottait les mains, et elle commandait en imagination un coffre-fort destiné à renfermer sa fortune imaginaire. « Il ne faut jamais, dit un vieux proverbe, compter sans l'hôte. » Le hasard, le destin, la fatalité, la providence, qu'on choisisse entre ces divers noms d'une même chose, se charge bien souvent de démolir les plans les mieux conçus. Madame Clodion avait compté sans l'hôte. Cet hôte fut la mort. Elle arriva, inattendue et foudroyante. Un beau matin, la porte du logis de l'accoucheuse ne s'ouvrit point, ni le lendemain, ni le surlendemain. C'était étrange et l'on s'en étonna. D'officieux voisins forcèrent la porte et entrèrent dans la maison. Une odeur infecte les contraignit de battre momentanément en retraite. Madame Clodion avait rendu sa vilaine âme au diable. Les vers se disputaient déjà son cadavre. Personne ne songea seulement à regretter la vieille femme. Personne, excepté la nourrice, qui songea tout aussitôt que la pension de la petite Hébé ne serait plus payée. Mais cette nourrice était une brave femme. Elle s'était prise d'ailleurs d'affection pour l'enfant, et elle se décida à la garder chez elle et à la traiter absolument comme ses autres filles. Malheureusement pour Hébé, les effets de cette bonne résolution devaient être annihilés par les circonstances. La maison de la nourrice était située tout à fait à l'extrémité des faubourgs de Toulouse, c'est-à-dire presque dans la campagne. Un jour, Hébé, âgée en ce moment d'un peu plus de 4 ans, et ses 2 petites sœurs de lait, sortirent comme de coutume après déjeuner pour aller se promener dans les faubourgs ou dans les champs. Le soir venu, les filles de la nourrice rentrèrent seules. Hébé n'était plus avec elles. La nourrice, désolée, interrogea ses filles. Les petites répondirent en pleurant qu'elles avaient toutes 3 suivies dans les faubourgs et jusque dans la ville des hommes vêtus de rouge et d'or, qui faisaient beaucoup de bruit en frappant sur des tambours et en soufflant dans des trompettes. Ces hommes s'étaient arrêtés sur une grande place et étaient entrés dans une espèce de maison de toile et de bois, d'où ils n'avaient point tardé à ressortir plus nombreux, accompagnés de femmes vêtues comme des princesses et recommençant leur musique. Une foule considérable ne tarda point à s'amasser sur la place et autour de la baraque. Les petites filles se trouvèrent prises dans les groupes, ce dont elles ne s'affligèrent que médiocrement, car elles pouvaient satisfaire leur curiosité. Combien de temps restèrent-elles là, la bouche béante et les oreilles avidement ouvertes? Elles ne le savaient pas trop elles-mêmes. Toutes trois se tenaient par la main. Seulement, il arriva un moment où un reflux du populaire les disjoignit avec violence. Les deux sœurs se retrouvèrent, mais Hébé n'était plus là. Sans doute, elles les cherchaient. Elles attendirent. Hébé ne vint pas. Les petites filles se dirent que peut-être leur compagne, ne les trouvant point, avait regagné le logis sans elles. Elles attendirent encore un peu, puis à leur tour, elles se remirent en marche. Elles espéraient trouver en arrivant Hébé sur le seuil de la maison. Et cependant, leur pauvre cœur était bien gros. Nous savons que l'enfant n'avait pas reparu. La nuit se passa sans rien amener. Le lendemain, on fit des recherches de tous côtés. Elles furent vaines. On se perdit en suppositions et en conjectures. La seule vraisemblable fut qu'Hébé avait été volé par quelqu'un des bohèmes faisant partie de la troupe ambulante des charlatans et des saltimbanques qui paradaient la veille sur la place du Capitole. Mais cette troupe avait quitté Toulouse le soir même et l'on ne pouvait savoir de quel côté elle avait dirigé ses pas aventureux. D'ailleurs, l'argent manquait à la pauvre nourrice pour faire continuer les démarches dans un cercle plus large. Elle se résigna, non sans peine, et elle garda dans le fond de son cœur un faible et lointain espoir de revoir quelque jour sa petite fille adoptive. Cet espoir était sans fondement. La suite ne le prouva que trop. Hébé ne reparut jamais. « Elle est morte, » se dit la nourrice au bout d'un certain temps. « Elle est morte, la pauvre enfant. » Et elle fit brûler des cierges et dire des messes pour le repos de l'âme de celle qu'elle avait nourrie de son lait. Elle se trompait, hélas. L'enfant était vivante, malheureusement pour elle-même, malheureusement pour d'autres encore. Chapitre 32. Les bohèmes. Voici ce qui s'était passé. Au moment où les trois petites filles avaient été séparées les unes des autres par un mouvement brusque de la foule qui les entourait, un homme long, pâle et maigre, à la mine de furet, aux yeux louches, aux cheveux roux, vêtu d'un costume entièrement gris, d'une douteuse fraîcheur, et coiffé d'un vieux feutre à large bord, s'était approché d'Hébé qui cherchait des yeux ses compagnes. « Bonjour, ma petite !» lui avait-il dit d'une voix mielleuse et en fixant sur ses lèvres minces un sourire qu'il s'efforçait de rendre caressant. Hébé, habitué à une politesse enfantine par sa mère nourrice, avait répondu avec une belle révérence. « Bonjour, monsieur !»« Est-ce que vous êtes toute seule ici, mon enfant ?» demanda l'inconnu. « Nenni, monsieur !»« Votre maman vous accompagne, sans doute !» Hébé secoua la tête d'une façon négative. « Qui donc, alors ?» reprit l'homme maigre. « Mes petites sœurs. »« Ah, et où sont-elles ?»« Là, tout près. »« Pourquoi les avez-vous quittées ?»« Ce n'est pas exprès, mais je vais les rejoindre. »« Je vous y conduirai. »« Justement, je crois les voir. »« De quel côté ?»« De celui-là. » Et l'homme maigre montra la gauche. Hébé secoua de nouveau la tête d'une façon mutine et sa petite main indiqua le côté droit. « C'est par là qu'elles sont, » dit-elle. « Eh bien, nous irons par là. Est-ce que vous êtes de Toulouse, ma petite ?»«
Oui, monsieur. »«
C'est-à-dire, je suis d'un faubourg. »«
Et vous êtes venue à la ville pour entendre la belle musique et voir les beaux tours de ces messieurs habillés de rouge et de ces grandes dames vêtues comme des reines ?»«
Oui, monsieur. »«
Cela vous amuse-t-il ?»
Oh, beaucoup.
Mais petite comme vous êtes, il me semble que vous ne devez pas trop bien voir.
C'est vrai.
Seriez-vous bien aise de voir mieux?
Oui, monsieur.
Eh bien, venez.
Où?
Plus près des baraques. Je vous soutiendrai dans mes bras et vous verrez tout à votre aise.
Hébé fit un mouvement de joie, mais elle s'arrêta aussitôt.
Et mes petites sœurs? Dit-elle.
Sitôt que je vous aurai placé, j'irai les chercher, et je les amènerai à côté de vous.
Bien sûr ?
Oui, bien sûr.
Eh bien, allons.
L'inconnu souleva Hébé, et chargé de ce léger fardeau, il fendit la foule, et ne tarda point à arriver au premier rang, tout auprès de la balustrade. Cette balustrade empêchait le public d'envahir une plateforme sur laquelle une demi-douzaine de saltimbanques, hommes et femmes, paradaient et gesticulaient au bruit d'un orchestre discordant. Hébé, pétrifié d'admiration, n'avait pas assez de ses yeux pour voir, de ses oreilles pour entendre. Elle s'étonnait de ce mouvement, de ce bruit, de ces costumes qui lui semblaient splendides, de cette musique qui lui semblait harmonieuse. Au bout d'un instant, son guide lui dit « Cela vous paraît beau, n'est-ce pas ?»«
Oh !»
s'écria l'enfant pour toute réponse. « Eh bien, si vous voyez... »«
Quoi donc ?»«
Le spectacle auquel on assiste dans l'intérieur de cette baraque, cela vous semblerait, ma foi, tout autre chose. »«
Oh !»
répéta la petite fille. « Voulez-vous en juger ?»«
Oui !»
fit Hébé. « Rien n'est plus facile. »«
Comment ?»«
Entrons. »« Nous laissera-t-on passer ?»
Sans doute en payant.
Mais je n'ai pas d'argent. J'en ai, moi, et je veux vous donner ce plaisir. Hébé frappa dans ses mains avec une ivresse véritable. Mais presque en même temps, sa figure s'assombrit.
Et mes sœurs,
murmura-t-elle, mes sœurs qui ne savent pas où je suis. Sitôt que vous serez entrées, j'irai les chercher et je les ferai entrer à leur tour.
Alors, dépêchons-nous.
L'inconnu souleva de nouveau Hébé et franchit la balustrade avec elle. Ceci fait, il écarta une sorte de portière en grosse toile et se trouva sous une espèce de tente grossière. Sous cette tente, et assise sur une escabelle de bois blanc, se prélassait une énorme femme, au buste déformé et au visage enluminé vigoureusement. Une petite table, placée pour ainsi dire entre ses jambes, supportait des bouteilles, des verres et un sucrier. La grosse femme semblait ivre à moitié et de plus absorbée dans une méditation bachique. L'arrivée de l'homme maigre lui fit lever la tête. « Tiens, c'est toi l'échiné » fit-elle. L'inconnu mit un doigt sur ses lèvres et désigna la petite fille qui l'accompagnait. La grosse femme fit un geste de surprise. Elle regarda Hébé et elle s'écria « Nom d'un chien, la belle enfant !»«
Qu'en dites-vous, chère madame Rogaume ?»«
Un trésor !»« Bonjour ma fille, comment t'appelles-tu »«
Hébé, madame. »«
Tu dis ?» l'enfant répéta.
Hébé ?
Fit à son tour la grosse femme.
Pardieu, c'est un joli nom qui lui va comme un gant.
Puis elle ajouta en s'adressant à l'échiné. Où donc que vous avez déniché ce bel oiseau ?
Sur la place, à deux pas d'ici.
C'est bien travaillé, cela.
Je m'en pique.
Seul ?
Il y a les petites sœurs.
L'échiné cligna de l'œil. Puis il continua en appuyant sur chaque mot, en le soulignant en quelque sorte. Les petites sœurs, que je vais chercher, vous entendez bien, chère madame Rogaume, que je vais chercher pour leur faire voir le spectacle comme à ce chérubin que voilà. Placez-la bien, cette belle enfant, et ayez-en soin comme de la prunelle de vos yeux, jusqu'à ce que je revienne avec les autres.
Soyez tranquille, répondit la grosse femme.
L'homme, vêtu de gris, cligna de nouveau l'œil, souleva la portière de toile et sortit. Madame Rogaume resta seule avec Hébé. La petite fille ne se sentait rassurée que médiocrement. Une émotion de vague frayeur, frayeur instinctive et sans cause apparente, s'emparait peu à peu de son âme. Elle tremblait sans savoir pourquoi. Madame Rogaume se leva.
« Eh bien, cher amour, dit-elle à Hébé,
nous allons l'aller voir, ce spectacle. Mais d'abord, comme nous avons chaud, nous allons boire un petit verre de vin bien sucré pour nous rafraîchir.
« Je n'ai pas soif, madame, » balbutia Hébé.
« Bah, ça ne fait rien, on boit tout de même. Le vin sucré n'en semble que meilleur. » Et la grosse femme, empilant 4 ou 5 morceaux de sucre dans un verre qu'elle remplit de vin à moitié, versa sur ce mélange quelques gouttes du contenu d'un petit flacon qu'elle tira de sa poche. Ensuite, elle fit fondre le sucre avec une cuillère d'étain et elle présenta le verre à Hébé en lui disant « Allons, ma belle petite, avalez-moi ça lestement, puis nous irons voir le spectacle, ce beau spectacle, et attendre les petites sœurs. » Hébé prit le verre. Elle n'osa pas refuser de le porter à ses lèvres, et malgré son dégoût, elle en avala une gorgée. Mais à peine avait-elle bu que le verre s'échappa de ses mains et qu'elle s'affaissa dans les bras de Madame Rogaume, qui, s'attendant à ce résultat, était là, prête à la soutenir. Elle dormait. Chapitre 33. Voler. Quand Hébé se réveilla du sommeil lourd et profond provoqué par un puissant narcotique, des ténèbres opaques régnaient autour d'elle. Dans le premier moment, elle ne se rendit, on le comprend, nullement compte de sa situation. Il lui sembla d'abord qu'elle était le jouet d'un songe bizarre. Elle étendit ses mains pour tâcher de reconnaître en quel lieu elle se trouvait. Elle s'aperçut alors qu'elle était étendue sur un tas de paille et de foin. Elle se leva et voulut marcher. Une muraille de toile s'étendait devant elle à sa droite. Elle se tourna vers la gauche. Sa main rencontra une muraille semblable. Elle alla en avant. L'espace était libre pendant une dizaine de pas. À mesure qu'elle avançait, Hébé sentait un air plus frais la frapper au visage. Enfin, elle atteignit l'extrémité de sa prison de toile et elle reconnut qu'elle était dans un chariot couvert, dételé sur une grande route au milieu de la campagne. Hébé avança timidement la tête et regarda au dehors. Un spectacle digne de tenter les crayons de l'immortel Callot s'offrit à ses yeux. C'était une halte de bohémiens dans tout son pittoresque désordre. La nuit était noire. La troupe de charlatans et de saltimbanques que nous avons vus à Toulouse campait autour d'un grand feu allumé dans un fossé. Ces bandits, en quittant la ville, avaient dépouillé leurs costumes d'apparat et leurs oripeaux brillants. Ils étalaient maintenant leurs haillons avec un désordre cynique et une repoussante malpropreté. L'homme maigre ressemblait à une belette efflanquée. Madame Rogaume avait l'air de la plus hideuse de toutes les sorcières. Le souper de la bande se préparait dans un énorme chaudron suspendu au-dessus de la flamme. Toute cette population bohème, déguenillée, affamée, hideuse, semblait joyeuse et insouciante. Quelques bouteilles au ventre rebondi passaient de main en main et chacun leur donnait au passage une accolade plus ou moins longue. Les charbons ardents du brasier projetaient une lueur vive et rouge sur ces visages avinés, sur ces faces patibulaires, et produisaient des effets de lumière à la Rembrandt. On entendait des éclats de rire, des cris joyeux, des fragments de chansons graveleuses. Bref, c'était étrange, comique et horrible tout à la fois. On comprend qu'une enfant de l'âge d'Hébé ne put embrasser d'un seul coup d'œil les détails du tableau que nous venons d'esquisser. Elle n'en vit que le côté effrayant. Elle sentait qu'elle était seule, abandonnée, perdue. Elle songea à fuir. Mais comment? Mais où aller? Avec cet instinct inné qui se développe souvent chez de très jeunes enfants, dont l'intelligence est précoce, Hébé calcula que Toulouse devait se trouver dans la direction opposée à celle que suivait le chariot qui l'emmenait. Elle se laissa donc couler en bas de ce chariot, bien décidée à suivre la grande route, jusqu'à ce qu'elle eût rejoint le logis de sa mère nourrice. Malheureusement, au moment où le pied de la petite fille allait toucher terre, sa robe s'embarrassa dans une roue et lui fit perdre l'équilibre. Elle roula dans la poussière. Le bruit de sa chute, si léger qu'il fût, attira l'attention des saltimbanques. La mère Rogaume aperçut la petite fille et poussa d'une voix de basse taille un juron formidable. L'homme maigre, dont une souquenille bleue en lambeaux avait remplacé les vêtements gris, se leva, courut à Hébé, la releva brutalement et, la poussant par une épaule, la conduisit jusqu'auprès du reste de la bande qui siégeait autour du feu. « eh bien, petite !» fit la grosse femme en ricanant. « Où donc nous allons comme ça ?» Hébé, dont le cœur battait à rompre sa poitrine, garda le silence. « J'aime pas qu'on se taise quand je veux qu'on parle, » reprit la mère Rogaume avec un commencement de colère. « Ainsi, réponds, petite, ou je tape !» Hébé ne put que fondre en larmes. La grosse femme ramassa à côté d'elle un fragment de branche cassée et elle en donna quelques coups sur les bras et sur les épaules de l'enfant en répétant « Parleras-tu ?»«
Oui, oui, oui !»
balbutia Hébé au milieu de ses sanglots. «
Alors dépêche-toi, il n'est que temps !»«
Oui, oui !»
répéta l'enfant.
« Que faisais-tu ?»«
Je me sauvais. »«
Où allais-tu ?»«
À Toulouse. »«
Pourquoi faire ?»«
Pour y retrouver maman et mes petites sœurs. »«
La mère Ogome se mit à rire.
« Il faudra t'en passer désormais, ma biche, » reprit-elle. « Il faudra t'en passer de ta maman et de tes petites sœurs. Tu ne nous quitteras plus. »
Hébé fit un geste d'effroi.
« Est-ce que cela te déplairait, par hasard ?» demanda la mère Ogome.
« Oh !» murmura l'enfant.
« Que voulez-vous donc faire de moi ?»«
Tu le verras. »
« Je vous en supplie, madame, laissez-moi partir. »
La grosse femme se mit à siffler d'un air sardonique.
« Assez causé, cher amour, » dit-elle. « Voyons, as-tu faim et veux-tu souper avec nous ?»
Hébé fit un geste négatif.
« As-tu sommeil ?»
Hébé secoua la tête.
« Ah, tu ne veux ni manger ni dormir. À ton aise. Assieds-toi dans ce fossé, petite, et tête ton pouce. Et surtout, souviens-toi bien que si tu recommençais ton escapade de tout à l'heure, si en deux mots tu cherchais à te sauver de nouveau, nous avons les jambes plus longues que les tiennes. Tu serais rattrapé bien vite. Et je me chargerai, moi qui te parle, de te casser les reins avec le premier manche à balai venu. »
Puis la mère Ogome tourna le dos à Hébé et sembla ne plus s'occuper d'elle. La petite fille, tremblante de frayeur, se laissa tomber par terre, où elle s'accroupit, cachant sa tête dans ses mains et étouffant de son mieux le bruit de ses sanglots. Au bout de ce temps, brisé de fatigue, l'enfant s'endormit malgré son chagrin. Le matin venu, quand elle ouvrit les yeux, elle était étendue de nouveau sur les bottes de paille du chariot, qui marchait lentement, traînée par des chevaux étiques. Nous saurons bientôt quelle existence était destinée à la triste Hébé, et comment elle allait être appelée à jouer un rôle dans le plus étrange et le plus sinistre de tous les drames.